Bonjour, encore l'heure pour vous d'écouter notre émission Underscore. Écoutez reste un grand mot car je dois vous avouer que les murs ont des oreilles, et que tout ce que vous faites reste consigné caché dans des mémoires, des informations insignifiantes mais parfois récupérées à mauvais escient. À bon entendeur, je vous salue.
Ha ha ha.
Bonjour à mes mêmes.
Bonjour Cécile, bonjour Matt.
Salut.
Alors, c'est Yassimi Descartes, c'est nous.
Oui.
Et oui.
Non, en fait, il est 23h26, mais...
Bon, un peu, on faisait l'émission à minuit et quart. Donc,
tout la prochaine sera minuit et quart, tout à fait. Bienvenue dans notre émission, effectivement. Nous allons parler de sujets qui fâchent, de sujets qui sont dangereux. Parlant de Meltdown, c'est ça?
C'est ça, la grosse file. Là, ouais.
Alors, de grosses files, ce sera notre sujet du jour.
Mais d'abord, un peu d'actu.
Un petit peu d'actu. Donc, chiffré avec une lampe à lave, la parade contre les hackers.
Oui, donc alors là, le titre de l'article de Clubic est vraiment racoleur, hein, on peut le dire, parce qu'en fait, des lampes à lave comme source d'entropie pour générer des clés de chiffrement serait plus juste. Mais je suis sûr que personne ne comprend. Donc un jour, on expliquera tout ça. Mais en gros, ils utilisent les lampes à lave. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une lampe qui chauffe donc avec un cylindre en verre, donc transparent. Et deux liquides. Voilà, il y a deux substances à la viscosité différente. Et donc, en fait, il y en a une, en fait, qui est en dessous, qui est plus dense. Et quand elle chauffe, en fait, parce que la lampe est dessous, elle chauffe, ça fait des bulles qui remontent. Et après, une fois que c'est en haut, bah, ça refroidit, ça redescend. Donc, en fait, ça fait plein de mouvements aléatoires. Et en filmant ces images, ces lampes, ça fait une image. Et dans cette image, en fait, bah, y a plein de choses aléatoires, puisque, en fait, les bulles qui montent et qui descendent, c'est aléatoire, on peut pas prédire le truc. Donc, on s'en sert comme source de nombres aléatoires pour faire du chiffrement.
Joli.
C'est sympa.
Oh, une police réalisée par des chercheurs de l'École nationale de l'aviation civile reçoit une étoile du design.
Oui, elle est conçue pour uniformiser les affichages des tableaux de bord des avions, parce que pour l'instant, il y a plein de trucs qui sont un peu disparates. Alors par contre, contrairement à l'image d'illustration sur le site, bizarrement, le zéro n'est pas barré sur la police elle-même, ce qui est quand même bien utile pourtant pour la différencier de la lettre O. Alors en général, quand même, au niveau de l'aviation, ils font bien attention de ne pas mélanger justement. Ils font attention à ces trucs-là.
En général, ils ont des bons yeux, donc ils savent faire la différence.
Oui, et puis c'est en général les références, ils font bien attention à pas avoir un O ou un 0 à côté et tout ça. Mais bon, voilà quoi, c'est un peu bizarre.
L'Internet Archive reçoit $1 million en Bitcoin.
Oui, du fonds Pineapple, donc il y a un fonds qui collecte en fait des bitcoins et qui les redistribue comme ça.
Nexapath annonce leur projet KimeTrack.
KimeTrack avec un nom sympa. Donc l'objectif est de vous permettre de détecter simplement les services qui vous pistent en ligne à travers les sites que vous visitez et de distinguer les bons et les mauvais élèves en la matière. Alors on vous en parlera plus quand on aura plus d'infos.
Ouais, parce que j'ai rien compris. L'OS expérimental Fuchsia tourne sur le Pixelbook.
Oui, c'est une machine de Google, hein, et donc en fait, ça sert à, le but c'est de remplacer Chrome OS qui est utilisé sur les Chromebooks notamment. Donc bah voilà, et en plus c'est ceux qui font ça, c'est des gens de chez Apple en fait, enfin de chez Bee en fait, qui viennent de chez Bee.
Oui, oui.
Qui moi j'aime bien.
Bah oui. Après avoir intégré le HEVC sur macOS et sur iOS, Apple rejoint son concurrent.
Nous vous avions parlé récemment du codec AV1 lancé par Mozilla et soutenu par tout le monde sauf Apple. Eh bien, il semble qu'Apple ait finalement vu la lumière et se décide à rejoindre l'initiative Open Media Alliance.
Ah.
Donc peut-être enfin un codec pour les contrôler tous.
Oui, ça serait pas mal.
La Library of Congress part de Twitter.
Oh.
Bah oui, voilà, ils ont fait un article pour expliquer dans le New Yorker et ils disent pourquoi, Twitter...
Ils ont entendu la chronique de Cécile la semaine dernière où elle
parlait
des réseaux sociaux, c'est ça.
Je pense que c'est ça.
Je ne vois pas d'autre explication.
Non, Steve Jobs, il devient une marque de vêtements. Des Italiens ont déposé la marque Steve Jobs pour vendre des vêtements et Apple n'a pas réussi à empêcher ça. Déjà que Apple et la maison d'édition de musique...
Oui.
C'était voilà. Un peu tendancieux. En même temps, si le prix des jeans s'aligne sur les produits Apple, t'es pas prêt à en acheter, toi.
Non, j'ai pas les moyens.
Et Space Invaders a 40 ans.
Ouais.
Avec la fabuleuse musique. Toum, 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 toum.
Alors c'est pas celle-là, mais on vous a prévu un truc pour plus tard.
C'est comme ça, c'est la musique, c'était au rythme des vaisseaux en fait. D'ailleurs, j'ai fait une découverte il y a pas longtemps sur Space Invaders sur la Super Nintendo. C'est que le jeu était sorti sur Super Nintendo au Japon, aux États-Unis et en Australie, mais pas en Europe. Et en fait, la version Super Nintendo existe quand même en Europe, mais elle est sortie sur une cartouche Game Boy. D'accord. Et le jeu Super Nintendo est inclus dans la cartouche Game Boy. Donc en branchant la cartouche Game Boy de Space Invaders sur un Super Game Boy, vous avez le jeu Super Nintendo.
Ah,
vraiment.
Oui, tu nous en as parlé l'autre jour.
Ouais, et j'ai mis en démonstration la Amiga Bouffe d'ailleurs. Ouais. Et ouais, c'est assez bluffant quand même. Bon, ça reste un Space Invaders, mais ça reste intéressant à voir.
Tout de suite une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après sur une faille de
Metal. C'est une musique choisie par un même humain, ça. Vas-y, dis-nous le titre. Balance. It's all about the paintings, baby. Cold crackers, slackers, wasting time with all the chat room yackers. 9 to 5 chilling at Hewlett Packard, working at a desk with a dumb little placard. Yeah, paying the bills with my mad programming skills. Defragging my hard drive for thrills. I got me 100 gigabytes of RAM. I never feed trolls and I don't read spam. Installed a T1 line in my house. Always at my PC, double clicking on my missiles. Upgrade my system at least twice a day. I'm strictly plug and play. I ain't afraid of Y2K. I'm down with Bill Gates, I call him money for short. I phone him up at home and I make him do my tech support. It's all about the premiums. What? You gotta be the dumbest newbie I've ever seen. You've got whiteout all over your screen. You think your Commodore 64 is really neato? What kind of chip you got in there, a Dorito? You're using a 286, don't make me laugh. Your Windows boots up in what, a day and a half? You could back up your whole hard drive on a floppy diskette. You're the biggest joke on the internet. Your database is a disaster. Your wax and your modem, trying to make it go faster. Hey fella, I bet you're still living in your parents' cellar. Downloading pictures of Sarah Michelle Gellar and posting me too, like some brain dead AOLer. I should do the world a favor and cap you like old Yeller. You're just about as useless as JPEGs to Helen Keller. Crew, huh? Yeah, yeah, rule cyberspace and crunch numbers like I do. They call me the king of the spreadsheets. Got them all printed out on my bed sheets. My new computer's got the clocks, it rocks, but it was obsolete before I opened the box. You say you've had your desktop for over a week? Throw that junk away, man, it's an antique. Your laptop is a month old? Well, that's great. If you could use a nice heavy paperweight, my digital media is right protected. Every file inspected, no viruses detected. I beta tested every operating system. Gave props to some and others I dissed them. While your computer's crashing, mine's multitasking. It does all my work without me even asking. Got a flat screen monitor 40 inches wide. I believe that yours says Etch-a-Sketch on the side. In a 32-bit world, you're a 2-bit user. You got your own news group, all total loser. Your motherboard melts when you try to send a fax. But you get your CPU in a box of Cracker Jacks. Play me online, well you know that I'll beat you. If I ever meet you, I'll control all the leech you. One, one, one.
Oh, ça c'était bien envoyé.
C'était Weird Al Yankovic, It's All About the Pentiums.
C'était tout à fait en accord avec ton sujet du jour.
Et oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas Weird Al Yankovic, il fait quasiment que des parodies. Et franchement, allez voir aussi le clip parce que c'est génial. Donc oui, et ben, le sujet du jour.
Wow, les failles de Meltdown et Spectre.
Alors, un processeur, comment ça marche?
Alors un processeur, bah oui, alors c'est ça le problème, c'est que j'ai voulu essayer
Fais ton Bonaldi.
Je vais essayer de vous expliquer Le principe de ces failles, alors au moins Meltdown, parce que Spectre, j'ai pas encore lu le papier, parce qu'il y a Meltdown, j'ai lu un papier, les scientifiques, les chercheurs, ils publient des trucs, mais alors c'est écrit petit, puis il y en avait 16 pages et tout, et avec des schémas et tout, donc
costaud
j'ai...
quoi.
Voilà, donc celui de Spectre, j'ai pas encore lu, mais déjà pour arriver à comprendre pourquoi il y a cette faille là, il va falloir comprendre plein de choses sur un processeur, donc.
Alors oui, effectivement, ce qu'on va faire, c'est que pour que le public comprenne un petit peu, on va me prendre moi, lambda, qui ne connaît rien.
Et non pas lambada, c'est ça. Non,
lambada, excuse-moi, belle. Je t'ai pas dans le thème.
Et du coup, oui, alors, on va essayer de, je vais essayer de d'expliquer chaque partie, et pour après essayer de remettre tout ensemble et d'expliquer pourquoi bah, tous ces trucs-là ensemble, ça met le bazar. Et d'abord, on va commencer par alors la machine de Turing.
Ne t'endors pas.
Ne t'endors pas, Matt.
Mais non, je dors pas. Je repose mes yeux.
Il est en mode.
Je regarde l'intérieur de mes paupières.
C'est la oui, l'asthénie post-tartiflette, c'est ça. Donc, alors la machine de Turing. La machine de Turing, en fait, c'est l'ordinateur le plus simple. En fait, c'est le modèle en fait de l'ordinateur le plus basique.
C'est un rapport avec Alan Turing.
C'est ça, c'est lui qui a en fait qui a posé les bases du truc, qui a décrit comment devrait fonctionner un ordinateur.
Oui.
Et il a dit il faut qu'il y ait une mémoire, donc en fait c'est des valeurs en fait avec une adresse, donc en fait il y a des valeurs qui suivent et puis théoriquement.
Oui, t'as vu où je dors pas.
Mais c'est bon. Bien, c'est bien, il y en a.
Bien, bien.
Il suit hein. Et donc en fait dans l'idéal en fait la machine de Turing c'est une mémoire infinie et puis une unité qui lit une valeur en mémoire et suivant la valeur en mémoire fait un calcul, une instruction, l'instruction lui dit qu'est-ce qu'il faut faire et donc il va prendre une valeur en mémoire, il fait un calcul et il remet une valeur à un autre endroit en mémoire.
Ah.
En gros voilà, en schématisant c'est ça. Et donc un processeur, et ben en fait c'est vraiment la partie dans l'ordinateur qui fait ce truc là. Alors la mémoire c'est à côté, mais c'est la partie qui va gérer tout ça et qui va lire une valeur en mémoire et suivant ce qu'il y a à cet endroit en mémoire va faire un calcul, stocker une valeur ailleurs, etc. Donc un processeur, normalement c'est une machine de Turing, puisque la machine de Turing c'est la version idéale, théorisée du truc, et l'implémentation concrète, bah, c'est un processeur. Sauf que les processeurs, ils ont beaucoup évolué depuis les 8008 et les 80 d'Intel et tous les premiers. Hein. Il y avait le 4004 et 4008, etc.
Ah oui, c'était les processeurs auxquels on faisait des trucs à l'école.
Ouais, bah oui, oui, oui. Maintenant, c'est toujours le même principe, sauf que bah, c'est bien plus compliqué parce qu'ils ont plein de choses à faire et ils vont plus vite et ils font plus de trucs en même temps. Donc, alors je vais essayer à chaque fois de prendre une métaphore pour éviter de larguer tout le monde. Donc, on a souvent parlé de logiciels pour comparer aux recettes de cuisine. Et bien, en fait, c'est un peu comme le processeur, c'est un peu comme une cuisine et où on fait des choses, on fait des plats. En fait, les ordinateurs, ils cuisinent des données. On peut dire ça en fait, ils prennent des données, ils les manipulent et ils en font d'autres données. Donc on prend des ingrédients, c'est les données, on fait des calculs, donc c'est des opérations comme la cuisson, le battre les œufs, etc. Et puis le résultat c'est un autre produit, c'est des données aussi, mais c'est autre chose.
Un produit transformé.
Voilà, c'est un produit transformé.
Un résultat.
Voilà, et alors maintenant on parle beaucoup des processeurs avec plein de cœurs et tout, les quadricœurs, etc. Et ben en fait c'est un peu comme s'il y avait quatre cuisines... en parallèle. Donc ça, c'est voilà, c'est comme s'il y avait quatre cuisines qui faisaient chacune leur truc. Sauf qu'on va voir que dans chaque cœur, en fait, il y a plein d'autres choses dedans.
Alors, il n'y a pas que des cuisiniers pour faire la cuisine.
Eh ben non, parce que les cuisiniers tout seuls, il faut qu'ils aient des instruments, des matières premières, etc. Bon, et puis des recettes aussi. Alors il y a le cache. Alors le cache, en fait, c'est un morceau de mémoire qui est très rapide. Et qui est placé directement sur la puce du processeur. Parce que la mémoire, normalement, c'est des puces qui sont à côté. Et donc, vu que c'est très loin, et c'est quand même relativement lent, ça prend du temps pour aller. Voilà, ça prend du temps pour aller demander à la puce mémoire qu'est-ce qu'il y a à telle adresse. Parce que les informations, elles sont rangées hein, dans un ordre précis. Il y a une adresse, donc en fait, c'est un numéro d'ordre, en fait. Et sur les architectures 32 bits, il y en a 4 milliards d'adresses possibles. Et puis, sur les 64 bits, il y en a beaucoup plus. Et donc, le processeur, pour éviter à chaque fois de redemander la même chose à la mémoire, bah, il a une petite mémoire sur sa puce à lui pour noter des trucs. Donc c'est un peu soit comme si on gardait des ingrédients dans le placard plutôt que d'aller à chaque fois qu'on a besoin d'un brin de persil, on va au magasin. C'est un petit peu une perte de temps. Donc on achète une botte de persil et puis on met dans le placard, puis quand on a besoin, enfin ou dans le frigo, et quand on a besoin, on pioche dedans. Ou aussi, comme bah, si vous avez une recette que vous voulez faire, bah, plutôt que d'aller à chaque fois que vous avez une recette à faire d'aller à la bibliothèque, vous prenez des notes ou alors vous empruntez un livre. Donc vous gardez sous la main, en fait, dans la cuisine.
Mmh. Mais elle n'a pas un nom spécifique, cette mémoire ?
Et donc ça, c'est le cache.
La mémoire cache.
D'accord.
C'est la mémoire cache, donc c'est une partie du processeur. Et sauf que vu que bah, c'est très cher, la mémoire, et puis surtout celle-là, elle est beaucoup plus rapide, et donc il n'y en a pas beaucoup. Donc en fait, la place est limitée, et donc c'est un peu comme une étagère. S'il n'y a plus de place sur l'étagère, bah, faut virer des bouquins pour en mettre d'autres. Donc il y a des mécanismes qui font que bah, celles qui sont utilisées les plus souvent, on les laisse, et puis les bouquins qui traînent, que personne ne lit, bah, on les vire, et on les rend à la bibliothèque et on en met des nouveaux. Donc ça, c'est le Last Recently Used, c'est LRU, c'est une politique de gestion du cache. Et puis à côté, il y a la MMU. Alors la MMU, elle sert à traduire une adresse virtuelle en adresse physique. C'est-à-dire que, en fait, on va isoler chaque application et elle va avoir une vue de la mémoire qui va être différente. Donc chaque programme va avoir ce qu'on appelle un espace d'adressage spécifique.
Un peu comme toi qui fais de la vulgarisation.
Voilà, moi j'ai l'impression de voir des trucs et puis voilà.
Alors, c'est MMU Man, hein, comme tu t'appelles.
C'est ça. Mais l'idée, c'est un peu comme de permettre à plusieurs équipes d'utiliser la même cuisine. Sauf que le processeur, il va faire ça très rapidement et en fait, c'est le système d'exploitation qui assigne l'application en fait et il change régulièrement. Mais du coup, quand vous faites des recettes, entre les services, normalement, il y a le nettoyage qui se fait parce qu'on ne laisse pas traîner des trucs. Pour l'équipe d'après, c'est pas sympa. Et puis, alors, il y a le noyau du système d'exploitation. Ce n'est pas un composant matériel, mais c'est un programme en fait, qui va gérer l'allocation des ressources, donc en fait, qui va aider à partager la mémoire entre les différents programmes. Et donc, notamment, il va gérer cette partie du processeur qui s'appelle la MMU pour gérer l'isolation entre les applications. Donc, quand une application appelle le noyau, en fait, elle continue l'exécution du code dans le processeur, dans le code du noyau, dans le programme qui s'appelle le noyau, après avoir obtenu les privilèges du noyau. Donc, en fait, c'est le noyau qui fait quelque chose au nom de l'application. Alors, bah, au niveau de la cuisine, ça serait un peu comme bah, une application, c'est un menu, et puis en fait, le noyau, ça serait l'interface de réservation de la cuisine, parce que bah, moi, je veux faire ce menu-là, donc il faut avoir les cuisiniers, et puis il faut avoir un temps de réservation pour utiliser la cuisine. Après, il y a la micro-machine. Alors ça, en fait, je vous ai dit, les processeurs actuels, ils sont très compliqués, et donc plutôt que d'avoir une instruction à chaque fois, les instructions officielles, hein, celles qui sont documentées, elles sont découpées en micro-instructions, plus simples, donc soit additionnées, etc. Et en fait, il dit, une instruction va dire, tu vas prendre une valeur à tel endroit, et puis après, tu vas l'additionner avec un truc, etc., et tu vas ranger ça à tel autre endroit. Et puis, en plus, dans le même cœur, il y a plusieurs unités d'exécution. Donc en fait, c'est comme s'il y avait plusieurs instruments de cuisine. Il y a un mixeur, il y a un four, etc. Et on peut les utiliser en parallèle, ces trucs-là. Parce que sinon, c'est un peu débile d'attendre qu'on ait fini d'utiliser le mixeur pour faire cuire un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait dans le mixeur, quoi.
Oui, on peut faire des choses en
voilà,
parallèle.
Voilà, donc ils parallélisent des choses. Donc voilà, chaque micro-instruction, en fait, peut utiliser plusieurs unités d'exécution. On appelle ça des unités d'exécution. Et puis ben, dans une cuisine, souvent, surtout dans les grands restaurants, il y a plusieurs cuisiniers dans la même cuisine. Donc, ils font des choses en parallèle. Et alors, après, on arrive sur l'exécution dans le désordre. Et en fait, les processeurs, plutôt que d'attendre en fait, qu'une instruction soit finie, ils commencent à exécuter celle d'après. Et du coup, parce qu'une instruction qui sert juste à lire et à écrire en mémoire, s'il sait que l'instruction d'après sert à faire une addition, et ben il peut utiliser la partie du processeur qui sert à faire une addition sans avoir à attendre que l'instruction d'avant soit terminée. Et donc, normalement, au niveau du programme, en fait, lui, il y voit que du feu. Hein, c'est comme si ça s'exécutait dans l'ordre, parce que le processeur, il fait son boulot et il remet les choses dans l'ordre. Sauf que quand même, quand il a commencé à exécuter une instruction, si l'instruction, la troisième instruction après celle qu'il est en train de faire, elle est en train de, elle doit lire une valeur en mémoire, eh ben, le processeur, il faut quand même qu'il lise la valeur en mémoire. Et donc, éventuellement, il va la mettre dans la mémoire cache dont je vous ai parlé plus tôt.
Oui.
Et donc, du coup, même si l'instruction va pas vraiment être terminée parce que en fait, celle d'avant, elle a déclenché une faute parce qu'il y a un truc qu'il n'aurait pas dû faire, il y a quand même eu une valeur qui est arrivée en cache pour l'instruction suivante. Donc, il n'est pas censé avoir exécuté cette instruction-là, mais en fait, il a quand même fait parce que... Et du coup, il y a quand même un truc qui a été changé au niveau de la mémoire cache. Il y a quand même une valeur qui est dans la mémoire cache. Donc en fait, c'est un peu comme si les cuisiniers ils préparaient des plats à l'avance au cas où. Au cas où on ait faim, dans certaines cours, il y a certains rois qui s'arrangeaient pour qu'il y ait toujours des plats prêts en avance parce qu'au cas où ils aient faim, et ça leur arrivait souvent. Et donc, on en arrive au fait que le processeur, il commence à faire des trucs alors qu'il n'est pas sûr que ce qu'il a commencé de faire avant, il doit vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, il se peut que sur la deuxième instruction ou la troisième instruction qui suit l'instruction qu'il est censé être exécuté.
Ouais, il était en train de faire une omelette et d'un coup...
Voilà, en fait, il a commencé à lire une adresse en mémoire et tout. Et en fait, l'instruction d'avant accède à une mémoire qui est censée être protégée. Par exemple, une mémoire qui est au niveau du noyau. Parce qu'en fait, le noyau, lui, il a son espace d'adressage à lui aussi. Sauf que pour des questions de rapidité, en fait, les applications... ont le noyau qui est dans leur espace d'adressage, cette partie-là leur est interdit. Alors là, c'est plus compliqué à faire au niveau de la métaphore. Mais en fait, du coup, on peut arriver à demander au processeur, par exemple, de lire une adresse qui correspond à l'espace d'adressage du noyau. Donc demander au processeur d'aller regarder un truc qu'il n'est pas censé faire. Mais le temps qu'il se rende compte qu'il n'aurait pas dû faire ça, en fait, il a exécuté une ou deux instructions après, et il est allé lire ailleurs aussi en mémoire.
Ça veut dire que pendant qu'il était en train de faire la cuisine, il a ouvert son téléphone et il a regardé les réseaux sociaux.
C'est un petit peu différent. On pourrait dire, par exemple, c'est un peu comme si, en fait, il y a un cuisinier qui commence une recette, puis il note un truc sur un papier, et puis en fait, il jette le résultat à la poubelle parce qu'il devait pas la faire ou machin. Mais sauf que quand on examine le résultat à la fin, il y a quand même un truc dans la poubelle. Mmh. Donc on sait qu'il a fait cette recette, alors qu'en fait, si on arrive à l'instant, au moment où tout le monde est sorti de la cuisine, il reste des trucs dans la poubelle, donc en fait, il y a des preuves. Et du coup, en fait, cette faille meltdown, elle vient du fait que le cache, en fait, la mémoire cache, on peut mesurer le temps d'accès, c'est-à-dire que vu qu'elle est plus rapide, on peut savoir si on peut arriver avec certaines instructions, on peut arriver à vérifier si telle ou telle adresse a été mise en cache. Et donc, quand on va lire une valeur, quand on va essayer de lire à une adresse dans le noyau où on n'a pas le droit de lire, le processeur il va commencer par lire ça, et il va exécuter l'instruction d'après qui va être par exemple de dire suivant la valeur qu'il y avait à cette adresse-là, donc je ne suis pas censé lire, tu vas aller lire à telle adresse ou à telle adresse ou à telle adresse. Et au moment où le processeur se rend compte qu'il n'aurait pas dû lire dans le noyau, l'adresse à laquelle la deuxième instruction est allée lire, en fait, elle a été mise en cache. Et dans un deuxième temps, en fait, on va aller regarder quelle adresse a vraiment été mise en cache. Donc on peut arriver à mesurer un effet qu'on ne devrait pas pouvoir mesurer en fonction d'instructions qu'on n'aurait pas dû exécuter. Ce qui est quand même assez, assez cocasse, quoi. Tout ça, c'est des optimisations pour aller plus vite. Et on se rend compte que, du coup, en essayant de faire...
Elles sont exploitées.
C'est ça, en faisant trop de trucs en même temps, ça laisse des traces.
Et donc, du coup, ce que vous faites sur votre ordinateur peut être absolument tout récupéré.
Alors, ça permet effectivement, pour Meltdown en tout cas, qui par contre ne concerne que les processeurs Intel, de récupérer en fait toute la mémoire physique et donc la mémoire des autres applications et dont des mots de passe. Parce que quand vous avez un client mail avec un truc de chiffrement ou des mots de passe pour se connecter à votre compte mail, et puis dans votre navigateur qui en plus des fois a des failles en JavaScript et tout, à partir du JavaScript, donc d'une page web, on peut arriver à récupérer le mot de passe qui est dans une autre application. Donc c'est un petit peu gênant. Donc il y a des patchs qui sont en train d'être sortis pour Windows, pour macOS, pour Linux aussi. Et puis pour les navigateurs aussi, parce que du coup, il y a des failles qui permettent d'exploiter ça en JavaScript.
Mais Meltdown, en fait, c'est une faille qui existe depuis un moment déjà, j'imagine. Et,
et ça fait
pas
15
courant.
Ans, en fait, c'est depuis que, depuis que les processeurs en fait, font des trucs dans le désordre.
Ah oui.
Et sur Intel, en fait, ils vérifient pas que, en fait, il vérifie pas s'il a le droit d'aller lire un truc au moment où il le lit. Il le fait plus tard et donc il se rend compte qu'il aurait pas dû le faire, sauf que bah, ça a laissé des traces.
Trop tard. Mais je pense que ça a dû servir vachement les services secrets de savoir tout ça.
Je pense qu'il y en a qui ont dû s'en rendre compte au bout de, depuis un moment, ouais.
Ouais, mais d'ailleurs, bon. Même tu avais dit que certains chercheurs racontent comment ils ont dû garder le secret.
Oui, alors oui, effectivement, il y a eu une période de quelques semaines, voire quelques mois, en fait, où bah, les chercheurs sont allés voir les fabricants Intel, AMD, etc., parce que Spectre, ça touche aussi AMD et ARM, pour essayer de trouver des solutions et voir comment on pouvait faire des patchs pour déployer le truc au moment où on annonce, et pas six mois après où tout le monde a déjà exploité la faille, quoi. C'est ça, l'intérêt.
C'est pas mal, ouais. Eh bien, c'était
voilà. Alors, je pense qu'on y reviendra, mais c'est pas forcément évident de vulgariser, mais il faut commencer
non, mais
par...
La métaphore de la cuisine, ça marche bien.
Ouais.
Oui, ça franchement, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissaient pas ce domaine informatique, qui est quand même le cœur de nos ordinateurs, puisque le processeur, c'est ce qui fait justement vivre l'ordinateur, tout simplement.
Sauf que 90% des gens s'en foutent du moment que ça marche. Donc,
Ce qui est intéressant de savoir, c'est quelque part, c'est que oui, même là, vous pouvez avoir des fuites. Donc voilà, nous ne sommes pas à l'abri. Bien, nous allons faire une petite pause musicale pour nous retrouver tout de suite après pour l'agenda et l'astrologique.
Take me home.
C'était une petite pause musicale, donc c'était effectivement pornophonique, Space Invader. Nous vous rappelons que c'est les 40 ans de Space Invader,
ouais,
c'est ça ?
Ouais, c'est ça.
Ah, j'étais pas dans le faux. Donc tout de suite, l'agenda.
Ah, l'agenda. Alors juste un truc, découverte et installation de GNU Linux sur son ordinateur, partie 1, donc c'est un truc en deux parties sur deux semaines. C'est au Valence Atelier Libre.
GNU.
Oui, on dit GNU et Linux. Donc c'est au Valence Atelier Libre, 13 rue bis rue Montplaisir à Valence. C'est le 31 janvier de 18h30 à 21h sur inscription. Donc c'est pour installer Linux sur son ordinateur. Donc il faut venir avec son ordinateur. Hein, ça, c'est,
pour
c'est
installer Linux sur son ordinateur, il vaut mieux apporter son ordinateur.
Voilà. Bon. on vous mettra les infos sur notre blog www.aa.fr.
Voilà, mais tout de suite, regardons la boule de cristal que voyons dans Stalogique.
Qu'est-ce qu'il y a dans la bouboule ? Alors, SF, décidément, il a l'oreille aiguisée. Mais non, il est vulcain !
Cisalmine, comme les trois mages, faites d'affilée.
Boucher, Spectrum, Meltdown, à peu près.
Libriste, un manchot sans GNU est un horrible manchot et tu ne veux pas avoir horrible manchot.
Ça, c'est copyright Richard Stallman.
At school. Mais non, ta console n'est pas griffée, ce sont des rides.
Technophile, encore un verre dans ta pomme, ça devient grave. Apple, ton banquier.
Codeur, il faut encourager les femmes à être développeuses. Comme ça, on aura l'API de Candy.
L'API de Candy.
Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de notre émission Underscore. On déborde. Mais bon,
ouais,
voilà.
Bah, oui, mais bon.
C'est comme ça. Écoutez, on peut faire autrement. Hein.
On a fuité, c'est à cause de Meltdown encore. Voilà.
Voilà,
j'espère
ça.
Que vous avez compris. Sinon, on en repassera une couche.
Hein. On vous refera une petite cuisine hein, pour vous expliquer Miam. Tout ça. Eh bien, très bientôt, à la semaine prochaine. Bye bye.
Bye, ciao.